le bienheureux Charles de Blois, qui est fêté le 29 septembre et qui vécut en France, en Bretagne et en Angleterre de 1320 à 1364. Charles de Blois était neveu du roi de France et il épouse une nièce du duc de Bretagne et ainsi hérite du duché et doit, par loyauté, lutter et batailler toute sa vie pour le droit et la justice. Il était d'une piété exemplaire, un chevalier modèle, serviteur inconditionnel du Christ et de son Église. Et Charles de Blois meurt à la tâche. Il est béatifié en 1904 par le pape Pie X. Nous sommes en 1320 et le roi Philippe V, que l'on surnomme partout dans le peuple de France Philippe le Long, du fait de sa haute taille et de sa minceur spectaculaire, le roi Philippe V règne depuis 4 années. Il était Philippe le Long, le second fils du beau, intelligent, majestueux, habile, mais hélas, souvent sans grand scrupule, Philippe IV. Philippe IV qui n'avait pas hésité à s'opposer aux décisions du pape, qui avait même été jusqu'à prétendre que le pape était hérétique et même criminel, et de ce fait qui s'était attiré les foudres papales et par deux fois l'excommunication. Philippe IV, Philippe le Bel, avait par ailleurs très humainement permis aux serfs dans le midi de la France d'acheter leur libération à prix d'argent. Et c'est toujours cette nécessité urgente de remplir les caisses du trésor public qui, par contre, bien souvent l'avait rendu impopulaire, confisquant les biens des Juifs, imposant fiscalement toutes les classes de la société et manœuvrant les légistes à cette fin. Enfin, livrant à la fureur du peuple exacerbé son puissant et cupide ministre, Enguerrand de Marigny, qui, quoique assez peu coupable, fut pendu haut et court au gibet de Montfaucon, apaisant ainsi les rancœurs justifiées des contribuables. Peu d'années auparavant, en 1312, 8 ans avant la naissance de Charles de Blois, avait pu être réuni le Concile de Vienne, sur l'instigation du roi Philippe, qui voyait d'un œil assez inquiet la puissance financière internationale des chevaliers du Temple s'étalait partout en France. Châteaux bien fortifiés, terres plantureuses et sans doute bien cachés dans leurs souterrains, lourds coffres remplis d'or. Et hors de portée du pouvoir royal, ils manipulaient les chevaliers du Temple, leurs opérations de banque, par lettres de change à distance incontrôlable. Enfin, le roi tenait la solution. Le nouveau pape Clément V, un aristocrate gascon, français, nommé Bertrand de Gaulle, élu en partie sous l'influence des cardinaux français, montrait une bienveillance naturelle envers la France et convoqua le 15e concile écuménique à Vienne, en France. Et ce concile pensa de très bonne foi utile et nécessaire de prononcer l'abolition de cet ordre des chevaliers du Temple, qui avait été si précieux jadis pour la sauvegarde et la sécurité des pèlerins en Terre Sainte 2 siècles plus tôt, lors de sa fondation en 1119, mais qui, depuis, s'était relâché de leur primitive ascétique discipline et qui était devenu beaucoup trop riche. Et étaient, du fait de leurs pratiques rituelles restées très mystérieuses et secrètes, accusés par la rumeur publique de vices sordides et même d'hérésie manichéenne. Quoi qu'il en fût, l'heure était venue de faire cesser ces activités inquiétantes. Ils furent jugés, reconnus coupables, sans doute à tort pour certains, emprisonnés, exécutés. Cela était encore tout récent, puisque le grand maître Jacques de Molay était monté sur le bûcher en 1314, et il n'y avait donc que 6 ans de cela, et ce drame était encore dans toutes les mémoires.